sommes vendredi 19 août 2022. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalungu. Tout de suite, les titres. Ce 19 août est célébrée la journée mondiale de l'aide humanitaire. À cette occasion, le ministre de l'Action humanitaire revient sur la question du plan de réponse humanitaire qui est financé à moins de 30% au Niger. Les migrants subsahariens refoulés de l'Algérie sont arrivés à Agadez en milieu de semaine. Parmi eux, des enfants mineurs non accompagnés et des femmes. Le responsable de la protection de l'enfant est à suivre dans ce journal. Dans le magazine de cette édition, nous parlerons de la ventouse, une pratique médicale traditionnelle à Zender. Elle permet d'enlever le sang coagulé qui se trouve dans la chair d'une personne. En 2022, le Niger enregistre plus de 600 000 personnes déplacées, internes et réfugiées. Le plan de soutien et de réponse humanitaire sont des outils de mobilisation de ressources pour venir en aide aux populations vulnérables. Seulement, ce plan de réponse humanitaire n'est financé à moins de 30% selon le ministre de l'Action humanitaire, Lawan Magaji. Il est au micro de Farid Bourema.
Pour le plan de soutien, nous sommes à un niveau de réalisation de près de 65%, tant physique que financier. Mais malheureusement, du côté du plan de réponse humanitaire, on est à moins de 30%. Nous sommes à peine à 20 et quelques pourcents. Pourquoi cela? Parce que certainement, avec les situations, les guerres et tout ce qui se passe de par le monde, il y a une certaine réorientation des biens et des accompagnements des partenaires, des donateurs vers d'autres cieux, notamment la situation mondiale que vous connaissez tous en Ukraine. Mais cela n'en tient. Nous demandons et nous lançons cet appel encore pressant à la communauté internationale pour accompagner les humanitaires et les agents de développement à ce que ce plan de réponse humanitaire, dans les 4 mois à venir, puisse rattraper le temps perdu afin que beaucoup de projets qui souffrent aujourd'hui de réalisation puissent être exécutés.
Pour parler du bilan des inondations, le maire de Timiya a indiqué que dans sa commune, 137 ménages ont été impactés, dont 83 000 m² de culture, des maisons et boutiques inondées. Ces inondations ont touché 6 villages de la commune, a expliqué Mohamed Aliman, maire de Timiya, au micro de Moussa Maman.
Nous avons 137 ménages touchés par ces inondations. Nous avons volé aussi à 83 000 m² de cultures qui ont été ensevelies, 43 puits maraîchers qui ont été ensevelis, 65 contre-puits aussi qui ont été endommagés, 27 motopompes emportées, des récoltes aussi, déjà des superficies embravées qui ont été ensevelies. Par exemple, pour l'oignon, nous avons jusqu'à 44 000 hectares qui ont été ensevelis. Des productions déjà d'oignons qui étaient dans les sacs qui ont été emportées jusqu'à 47 tonnes d'oignons. En termes de cheptel, nous avons enregistré un chameau qui a été emporté. En termes de clôture des jardins, c'est 16 000 mètres linéaires de clôture de jardin qui ont été importés. Ici, à Timiya, dans le village, c'est des dommages aussi sur des maisons et des boutiques aussi. L'eau est rentrée et c'est une valeur de marchandises de plus de 3 millions aussi, qui concerne spécialement les boutiques.
Nous restons toujours dans la région d'Agadez pour parler donc des dégâts causés par les inondations. 259 ménages sinistrés, 1818 personnes touchées et 22 hectares inondés. C'est le bilan des dégâts causés par les inondations dans les localités de Tablotte et Timiya, région d'Agadez. Ces dégâts sont consécutifs aux fortes précipitations enregistrées entre le 2 et le 9 août. Cheikh Oumam Lawal, coordinateur régional du ministère de l'Action humanitaire, explique au micro de Anissé.
Il y a au total 11 localités qui sont impactées. Dans la commune de Tablotte, nous avons 7 localités et dans la commune de Timiya, nous avons 4 localités. Ce sont des pluies qui se sont abattues le 2 août et le 9. Le 2 août sur Tablotte, nous avons 122 ménages qui sont sinistrés et à Timiya, le 9 août, nous avons 130 ménages impactés. Au total, nous avons 259 ménages sinistrés, 1818 personnes touchées, 11 maisons effondrées. Nous avons aussi des aires de culture qui sont inondées jusqu'à 21,84 hectares. Nous avons des petits ruminants au nombre de 15. Nous avons un chameau emporté. Nous avons plus de 50 puits qui sont aussi endommagés. 7 tonnes d'oignons emportées.
Je vous le disais dans les titres, une vague de 736 migrants subsahariens refoulés de l'Algérie. dont 30 enfants mineurs, 69 femmes et 503 hommes, est arrivé à Agadez le mercredi 17 août de l'après-midi. Les 30 enfants mineurs non accompagnés sont pris en charge par la direction régionale de la protection en attendant leur acheminement de leur localité respective. Souleymane Issaka, divisionnaire en charge de la protection de l'enfant, est au micro de Anissé Karim.
Dans la vague qui est arrivée, il a été mis à notre disposition 30 enfants, dont 12 filles et 18 garçons. La moyenne d'âge de ces enfants, disons que c'est dans les 11-12 ans, dans un état crasseux, et parfois on observe même des problèmes dermatologiques. Et aussi dans la prise en charge, nous avons un volet assistance médicale en cas d'urgence. Toute cette assistance est apportée à ces enfants pour qu'ils retournent dans leur famille, au moins dans des conditions plus ou moins acceptables.
Sujet culture, le monde célèbre ce 19 août la journée de la photographie. Au Niger, une association a vu le jour et organise cette année pour la deuxième fois une rencontre avec les passionnés de la photo. Chacun fait des photos, mais tout le monde n'est pas photographe, a indiqué Souley Abdoulaye, membre de l'association, qui invite d'ailleurs les photographes à rester ensemble pour défendre la profession. Il est au micro de Leila Nouveau.
Nous, à notre niveau au Niger, on est à notre deuxième édition pour commémorer la Journée mondiale de la photographie et en même temps faire le lancement des activités de synergie art-photo. Photographie, c'est une passion et nous, on a constaté que tout le monde fait la photo, mais tout le monde n'est pas photographe. C'est en ce sens qu'on a dit comme maintenant aujourd'hui, avec le lancement des activités de l'association Synergie Art Photo, d'amener les photographes à être plus professionnels dans ce qu'ils sont en train de faire et surtout dans le domaine artistique. On a commencé avec un analogique, le numérique est venu et cette fois-ci aussi, vous voyez, il y a le téléphone portable qui sont là. Donc on ne dit pas que c'est un obstacle pour les photographes, mais ça affaiblit la démarche des photographes, la majorité des photographes nigériens qui font des photos événementielles. Donc maintenant, il faut aller dans l'art créatif.
La suite de ce journal, la saison des pluies est véritablement installée au Niger cette année. Dans le département de Boboy, les premières pluies sont arrivées au mois de juin et depuis, le déroulement se fait normalement selon le directeur départemental de l'agriculture. Le développement des cultures se fait sans véritable problème. Le directeur donc, Zakari Issoufou, donne des précisions au micro de Barham Hassoumi.
Cette année, l'installation de la saison pluvieuse n'a pas été uniforme dans la zone de Boboy. Les semis ont débuté dans la deuxième décade du mois de juin. Et selon les constats des techniciens sur le terrain, certains villages de notre département seront confrontés à des difficultés, notamment dans le sud du département, dans les communes de Chiota, Harikanasu et une petite partie de la commune de Ngonga vers le village de Kalpati. Dans toute la zone comprise entre le dit village et la partie nord du département, l'évolution de la campagne agricole est inquiétante. Du fait que les premiers semis n'ont pas été suivis de pluies régulières qui pouvaient leur permettre de se développer normalement. C'est pourquoi des cultivateurs de la zone ont semé jusqu'à 4 fois voire plus. Malgré cela, la situation n'est pas réjouissante.
Et à Difa, les habitants et les usagers des routes de la ville se plaignent du mauvais état des routes, surtout en cette saison pluvieuse. La mairie de Difa, à travers son vice-maire, a tenu à apporter des éléments d'appréciation sur ces critiques. Kalo Mamadou, vice-maire de Difa, est au micro de Guidi Abdrahman.
Depuis l'installation de la saison pluvieuse, la mairie fait de son mieux. Chaque matin, nos véhicules et ceux offerts par les partenaires apportent du sable pour arranger les routes. La municipalité fait des efforts, mais la tâche n'est pas facile. C'est pourquoi jusque-là, nous n'avons pas encore décanté la situation. Que les usagers cessent de dire qu'ils payent leurs taxes et que la mairie ne fait rien. La tâche est énorme. Elle dépasse notre capacité. Nous invitons les usagers et la population en général, à nous prêter main forte. Si chacun met du sable à la devanture de sa maison, ce serait mieux. Les eaux qui sont stagnées un peu partout dans les quartiers constituent un obstacle pour les activités quotidiennes. Elles sont aussi une source de maladies telles que le paludisme et le choléra. C'est donc une situation préoccupante qui nécessite la mobilisation de tous.
Une note nécrologique en bref, l'association Alternative Espace Citoyen est en deuil. Sur sa page Facebook, le secrétaire général de l'association Moussa Tchangari a annoncé que Eric Kandem de la Maison des Migrants de Gao, Jibril Diado, technicien à la radio Alternative Niamey, Oumar Oudankarmi, Alternative Zender et Mustapha Moussa Tchangari, son fils et stagiaire à Alternative Niamey, sont décédés hier dans un accident de la route sur l'axe Zender-Difa alors qu'ils se rendez au forum des jeunes à Difa. Plusieurs autres sont blessés. Paix aux âmes des disparus. Parlons dans cette édition du foulard des scouts. Ce foulard est le tissu que portent les jeunes du mouvement du scoutisme autour du cou. Il marque l'appartenance à la grande fraternité scout. Selon Mme Lamine Soumane, commissaire international, le foulard est aussi le symbole de l'appartenance à un groupe, qu'il soit local, section, unité, équipe nationale, régionale, territoriale de district spécialisé. Il est au micro de Habibou Garba.
Chaque région a son propre foulard. Le foulard, en réalité, c'est un signe distinctif, un cadre symbolique qui permet aux scouts de se distinguer, de savoir qui vient d'où, qui fait quoi. Si tu vois un foulard bleu, par exemple bordé de blanc, sois sûr que la personne qui le porte vient de la région de Tillabéri. Ainsi, chaque région a ses propres couleurs. Maintenant, il y a le foulard aux couleurs nationales qui est porté par les membres de l'équipe nationale. Donc là, c'est un foulard lié à l'exercice d'une fonction pendant une période. Ce foulard violet, par exemple, que je porte, est le foulard porté par les membres du comité mondial. Donc le foulard est un outil à travers lequel les scouts se distinguent des autres personnes qui ne sont pas scouts, mais entre eux aussi, ils se distinguent pour savoir qui vient d'où, qui fait quoi, quelle est la responsabilité de tout un chacun.
Le magazine de ce journal, la ventouse en médecine traditionnelle, est une pratique qui permet d'enlever le sang coagulé qui se trouve dans la chair humaine. Cette façon de faire tend à disparaître à Zender où elle était très pratiquée il y a encore quelques décennies. Cette pratique a son origine selon El Hadj Lawali Wanzami, ancien chef des coiffeurs traditionnels de Zender. Seulement, il constate de nos jours que beaucoup de coiffeurs ne savent pas la pratiquer pour diverses raisons. Il est interrogé par Mustapha Mamansani.
La ventouse, l'extraction du sang coagulé dans le corps par l'application de la corne du bœuf, son origine s'assoit sur le prophète Mohammed. Donc pour nous, c'est même une sunna. Ce n'est pas comme une culture. Il serait bon dans la vie d'une personne de se faire appliquer la ventouse pour extraire le sang coagulé du corps. La personne doit avoir son propre coiffeur qui lui administre cette application de temps en temps. Autrefois, ce sont les coiffeurs traditionnels qui jouent le rôle d'imprimer l'extraction du sang coagulé, on ne peut l'afficher à tel ou tel autre aspect.
Pourquoi on fait la ventouse?
À tout moment, l'on peut solliciter la ventouse puisque le sang extrait n'est pas celui qui coule dans les veines, mais plutôt le sang stagné dans la chair. Cela peut s'appliquer 2 à 3 fois. Les Arabes conservateurs de cette citation du hadith continuent à faire cette application. En cas de chute, une entorse ou une déchirure. Toutefois que vous recevez cette application, plaise à Dieu, vous serez guéri. À force de donner beaucoup d'efforts physiques et que vous sentez une grande fatigue en faisant cette application, vous allez vous sentir mieux.
Aujourd'hui, nous constatons que cette pratique a pris du recul. Quelles sont les raisons?
En majorité, ici au Niger, c'est l'attachement aux mœurs occidentales qui fait que l'application de la ventouse est en train de disparaître. Ceux qui sont fortement attachés à ces mœurs refuse même de le faire, surtout ceux qui ignorent l'origine. Certains disent même que ceux qui le font sont des broussards. L'ignorance, l'occidentalisme ont pris le pas sur la ventouse. C'est pourquoi de nos jours, ceux qui le font deviennent rares. Aujourd'hui, son application est très rare.
Sur quelle partie du corps fait-on la ventouse?
Elle se fait sur les épaules, au bas des côtes, au haut du cou, la hanche, au genou, sur les doigts et même sur la poitrine ou tout simplement quand on sent une douleur sur une partie du corps. Nous considérons les coiffeurs traditionnels en chirurgien tout court. Je demande aux gens de demander et accepter cette pratique. Il ne faut pas se lasser des pratiques originales et s'attacher à une corde pourrie.
Fin de ce journal, merci de votre attention. Juste après les journaux en langue nationale, je vous retrouve à partir de 18h15 pour le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères des médias de Niamey.